Dans les années 80, le psychologue américain Howard Gardner publie sa découverte. Il explique que nous possédons tous plusieurs formes d'intelligence différentes. C'est à cette date que naît la théorie des intelligences multiples, qui serait donc au nombre de 8. Quelles sont donc ces intelligences? Auditeur de France Inter, quel est votre profil? Et comment, grâce à elles, améliorer nos capacités? C'est le dossier donc de la Tête au Carré, en partenariat dans un instant avec la revue Cerveau et Psycho. Et avec vos messages, toutes vos questions, vous nous rejoignez sur franceinter.fr et sur le mot clé, l'attaque. À la une de la science aujourd'hui, une revue piégée par deux sociologues, Axel Villard.
Oui, l'article s'appelle « Automobilité postmoderne, un pastiche d'analyse sociologique de l'Autolib ». Et ces deux co-auteurs nous racontent tout à l'heure ce qui les a poussés à fabriquer ce canular. Vos questions sur Twitter, naturellement, hashtag l'attaque.
Et c'est très drôle, vous le verrez. Voilà donc pour le sommaire de cette Tête au Carré, réalisée par Violaine Ballet et qui a été préparée par Lucie Sarfati.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Les intelligences multiples, c'est donc dans quelques minutes le dossier de l'émission. Claudine Chevalier, Olivier Houdet et Sébastien Boller. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bienvenue. Olivier Houdet, 8 intelligences, voilà ce que nous posséderions tous, mais pourquoi pas 9 ou 10 tant qu'à faire?
Alors là, les techniques scientifiques d'aujourd'hui, comme l'imagerie cérébrale fonctionnelle, nous permettent d'identifier les réseaux cérébraux qui travaillent ensemble pour développer l'intelligence visio-spatiale, émotionnelle, musicale ou linguistique.
Donc, et on en compte 8
On peut en compter 8. Nous, je serais plutôt pour
ça. Vous en ajoutez.
Ah non,
vous
j'en enlevez une.
Ah, vous en enlevez une? Laquelle?
Voilà. Alors, il est question d'une intelligence naturaliste, donc sur la façon que l'on a de catégoriser l'environnement. Elle est très proche d'une forme d'intelligence logico-mathématique. Donc, il ne faut pas non plus démultiplier les intelligences, en identifier quelques-unes, un bon jeu de cartes.
Bon, écoutez,
et chacun d'entre nous développe l'une ou l'autre.
8, c'est déjà pas si mal. Hein. On est content de le savoir, en tout cas. Claudine Chevalier, est-ce qu'enseigner l'intelligence multiple, ça peut rendre plus intelligent aussi?
Ça permet d'apprendre, en tous les cas. Ça permet d'apprendre mieux et d'apprendre un peu tout et de ne pas se retrouver en échec devant une notion qui est souvent compliquée.
Ouais, c'est enseigné d'ailleurs aujourd'hui, hein, déjà?
Oui, dans un certain nombre d'écoles. Pas partout, évidemment, ça serait bien si c'était partout.
Mais les résultats sont intéressants, on en parlera avec vous tout à l'heure. Sébastien Boller, les intelligences, ça peut se mélanger aussi, hein?
Bah, oui, c'est le but. Hein. Ce que montrent les études, c'est qu'en général, on a entre 3 et 4 intelligences majeur hein, sur le bouquet de 7 ou 8. Donc chacun a un jeu de 3 ou 4 cartes en main. Mmh. Et tout l'intérêt, effectivement, c'est ce que nous explique Olivier Houdet dans le dossier, c'est d'apprendre à en jouer intelligemment.
Et on verra ça avec vous. Vous allez nous dire comment. On se retrouve dans un instant pour en parler avec les messages des auditeurs. À la une de la science aujourd'hui, donc un canular sociologique qui sème le trouble. Manuel Quinon, Arnaud Saint-Martin, bonjour à tous les deux, bienvenue. Vous êtes deux jeunes sociologues, l'un en fin de thèse, l'autre en poste au CNRS à l'Université Paris Diderot. Et vous êtes donc les auteurs de ce texte complètement bidon, fruit de votre imagination, qui fait l'analyse sociologique de l'Autolib à Paris. Le grand titre est donc « Automobilité postmoderne ». Et vous êtes parvenu à faire publier votre texte par la revue Société, qui est donc clairement tombée dans votre piège. L'idée pour vous, c'était quoi? C'était de porter un regard critique sur cette revue dirigée par un de vos anciens professeurs. Il faut le signaler quand même, Arnaud Saint-Martin.
Alors, en effet, on a eu ce professeur en cours à l'université.
Mm-hmm. Michel Maffesoli.
Michel Maffesoli, on peut le citer. Alors, effectivement, l'enjeu, enfin, l'ambition de départ, c'était plutôt déjà faire une blague, une grosse blague. Ouais. On va raconter ça, j'imagine, tout à l'heure. Et après, c'est devenu ce que c'est en train de devenir en ce moment même. On va en raconter plus tout à l'heure dans l'interview.
Voilà, c'est-à-dire que ça commence à faire le buzz, mine de rien, votre petite affaire.
Légèrement.
Pourquoi vous avez imaginé ce texte, alors, Emmanuel Quinon, au départ?
Pourquoi est-ce qu'on l'a imaginé? Eh bien, écoutez, on a pris l'objet le plus simple qui nous passait sous le nez, à savoir l'Autolib. On se baladait dans Paris et on se disait, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'amuser un peu et plaquer l'éthique rhétorique, linguistique et épistémologique qui caractérise cette école de pensée sur cet objet? On s'est dit, tiens, ça pourrait bien marcher, on pourrait s'amuser en faisant ça.
Ouais, et donc, vous avez inventé un sociologue de toutes pièces, il s'appelle Jean-Pierre Tremblay, ça nous rappelle quelques scientifiques québécois, qui est devenu donc l'auteur imaginaire de votre papier sur cet objet Autolib. Hein.
Oui, effectivement, il a fallu faire exister un auteur en devenir. Je ne sais pas s'il aura une carrière post-canular, mais en tout cas, il a fallu le faire exister. inventer donc quelque chose comme un auteur qui allait publier dans cette revue et en simuler toute la rhétorique. Et c'est quelque chose qu'on a inventé de toutes pièces.
Oui.
Avec donc une enquête de terrain qui n'existe pas, rien n'existe, sinon ouais. des références complètement fabulées à un certain courant de sociologie qu'on a voulu caricaturer, mais presque ouais. à l'extrême, jusqu'à l'absurde.
Ouais. Alors, ce qu'il faut dire, Axel, c'est qu'évidemment, la lecture de ce texte est extrêmement drôle. On l'a mis en lien, d'ailleurs, hein, c'est le site de la Tête au Carré, pour inviter les auditeurs à profiter de ce texte hautement sociologique, hein, quand même.
Peut-être qu'on pourrait avoir un petit exemple de ce que dit Jean-Pierre Tremblay sur l'Autolib. Oui, ce serait intéressant,
Quinon,
je pense.
Exemple,
je vais vous lire un extrait à la fin de l'article. Alors voilà. On comprend maintenant dans quelle mesure l'Autolib, avec toutes les caractéristiques que la phénoménologie herméneutique fait apparaître, est en phase avec la baroquisation contemporaine. Contre une conception futuriste, l'Autolib met l'accent sur le présent, sur la jouissance immédiate, l'opportunité du moment, le kairos. Au volant de ce réceptacle à persona polymorphe, de ce concentré roulant de technologie et d'archaïsme, on s'en souvient, l'Autolib est nécessairement relié à la borne, sa matrice, l'événement s'épuise in actu, il n'appelle pas de dépassement, pas de contrat, mais du nomadisme, pas de propriété, mais de l'usage et de la reliance. Plus de voitures trophées petites bourgeoises, garées garantes névrotiques des identités de classe, de sexe et d'âge, mais un médium gris, flottant, ouvert à l'altérité, passant silencieusement et écologiquement d'un haut lieu urbain à un autre, d'une effervescence collective à une autre.
Oui, et la couleur vous intéresse beaucoup.
Hein. Ah oui,
il y a tout un passage sur le gris, justement, de la voiture, sur l'aspect transgenre également
transgenre
de l'Autolib.
Gris.
Il fallait quand même y penser.
Il fallait y penser, en effet. C'est une espèce de déconstruction en acte de ce qui caractérisait les voitures au XXe siècle, comme tout le monde le sait, c'est-à-dire la couleur.
Oui.
Et l'Autolib, maintenant, s'ouvre à l'altérité radicale, au transgenre, puisqu'elle est grise.
Voilà, et vous arrivez même à parler de phallus, d'utérus, en faisant des analogies.
Sans aucune difficulté.
Avec ce véhicule. Alors, ce qui est incroyable, c'est que votre texte, donc, a été accepté par la revue Société. Ça veut dire quoi? Vous avez échangé quand même avec des relecteurs, on vous a posé des questions, on a cherché à savoir qui était ce monsieur Tremblay, ou c'est passé comme vraiment une lettre à la poste?
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a donc contacté la rédaction de Société, qui s'est montrée intéressée par l'article, on leur a envoyé l'article, et on n'a pas eu du tout d'échange avec des relecteurs.
Ouais.
Ce qui se passe lorsqu'on publie un article scientifique, c'est qu'on envoie l'article, et l'article nous revient avec des notes, des annotations, ouais. des critiques, des choses à changer ou un refus.
Ouais.
On n'a eu absolument aucun retour. Le seul retour qu'on a eu, c'est l'acceptation de l'article,
ouais.
sachant qu'il fallait le réduire un petit peu d'un tiers. Voilà.
D'accord. Et là, vous avez bu du petit lait quand même. Vous avez dit « ça y est ».
À la fois, on était assez ravis de la blague, que ça marche, mais en même temps très inquiets. Parce qu'en effet, aucune correction, rien, si ce n'est une coupe de signes, ce qui nous a un peu frustrés, parce qu'il aura fallu enlever quelques jeux de mots, plus ou moins douteux, enlever quelques références à Jung, à tel ou tel auteur, dans les notes de bas de page, qui étaient déjà très saturées. Donc on était heureux, mais quand même assez inquiet de la façon dont ça s'est produit, c'est-à-dire aucune espèce d'évaluation, même pas, on pouvait même pas savoir si la rédaction était tout simplement convaincue par ce qu'on avait fait. Ce qui est quand même très, très étrange.
Alors Axel, vous avez pu joindre quand même le principal intéressé, celui qui visait directement dans cette publication, c'est le sociologue Michel Maffezoli.
Et bien sûr, la première chose que je lui ai demandé, c'est si votre pastiche l'avait fait rire.
Je l'ai trouvé bien fait, personnellement. Hein. Il y a une bonne utilisation parodique de certains de mes termes, hein, des expressions. Donc oui, c'est bien fait, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est un bon canular, bien fait. De notre point de vue, c'est une erreur. Voilà. Qu'à partir de là, on en fasse une affaire, ça me paraît exagéré. Alors, d'une part, l'article en question s'en prenne à moi d'une manière assez violente. Bon, moi, là-dessus, j'ai 70 ans, je suis à la retraite, ça m'est un peu égal, mais enfin, disons que l'essentiel de l'argumentaire est là-dessus. Et d'une manière qui n'est pas forcément dans la sérénité scientifique, disons. D'une manière plus générale, et ça c'est beaucoup plus inquiétant, c'est un article à charge contre cette thématique de la postmodernité. Moi, si je débattais avec eux, je discuterais pourquoi y a-t-il cette frousse en général en France, et vous en particulier, vis-à-vis de la manière dont on peut analyser une nouvelle manière d'être ensemble, une vie sociale qui est en train de changer fondamentalement. La crise, c'est pas autre chose.
Voilà, donc Michel Maffezoli qui répond à cette attaque. Il est plutôt bon joueur, d'ailleurs, je trouve, dans sa réponse. Alors, qu'est-ce que vous lui répondez précisément lorsqu'il vous dit que vous êtes à charge contre sa thématique de prédilection?
Ce qui me gêne un petit peu dans la réponse de Michel Maffezoli, sur les différents éléments qu'il a pu avancer, là, c'est que... Il ne prend pas en compte nos arguments en réalité. Là, tout de suite, on a une rhétorique un petit peu du complot, c'est à charge, on serait méchant, on aurait des mauvaises intentions.
On a la frousse.
la frousse, voilà, ce qui serait nos motivations cachées, si vous voulez. Mm-hmm. Donc, Maffesoli interprète tout ça. Mais ce qui me semble plus intéressant, ce serait de parler de nos arguments, parce qu'on avance des arguments qui me paraissent convaincants. Si Maffesoli n'est pas d'accord, tout à fait, mais qui adore dans ce cas-là, qu'il rebondit sur nos arguments et pas sur nos prétendues intentions. Ouais. Nos...
Arnaud Saint-Martin, c'est quoi l'idée aussi ? C'est de dire maintenant, ça suffit, il faut moderniser la sociologie aussi à tout prix, parce que là, on est vraiment dans quelque chose de totalement archaïque, qui ne correspond même plus d'ailleurs à la façon dont les étudiants travaillent aujourd'hui.
Il y a effectivement ce discours-là de non point moderniser ni postmoderniser la sociologie, mais en tout cas tout simplement faire de la sociologie et de la sociologie sérieusement.
Mais c'est quoi faire de la sociologie sérieusement ? Ce monsieur en a fait quand même de la sociologie sérieusement.
Tout simplement faire très sérieusement, au contraire de ce que ferait un enquêteur. Qui s'imaginerait sous le règne de la postmodernité, c'est-à-dire déjà aller voir concrètement comment opèrent les autolibes, ce que nous n'avons absolument pas fait. Mm-hmm. Nous avons imaginé tout de A à Z, nous n'avons jamais fait d'entretien, ce qui est quand même les entretiens, collecter des données socio-économiques sur cet usage de ce nouveau transport, enfin, oui. Faire le B.A.B.A. de l'enquête, combinaison des méthodes, réflexion sur le travail des concepts, sur qu'est-ce que ça veut dire que restituer sociologiquement, c'est pas présent. Donc pour moi, qui enseigne par ailleurs la sociologie,
en tout cas, ce qui est clair, c'est que vous vous êtes beaucoup amusé. Hein.
Oui.
Parce que vous avez beaucoup échangé ensemble pour trouver vraiment les formules comme celle que vous nous avez lue tout à l'heure, et c'était un jeu jubilatoire pour
absolument.
Vous.
Parfois, en nous relisant, on a eu les larmes aux yeux. En fait.
Ouais, ben nous aussi d'ailleurs, il faut le dire, donc c'est pour ça qu'on va faire profiter les auditeurs. Sébastien, très vite.
Très positif, c'est que les revues de sociologie à l'avenir vont faire très attention en recevant des papiers et se dire, bon, il faut à tout prix qu'on les fasse relire par des pairs. Ça, c'est un effet certainement très positif de l'opération.
Axel, pour terminer.
Ce qui serait rigolo à l'avenir, c'est que votre papier soit cité par des sociologues dans les années à venir qui ne prendraient pas garde aux canulars.
Oui. Est-ce que c'est déjà le cas ou pas ?
Alors, moi, j'ai des indices. Alors, on enquête encore sur ce canular qui s'invente. J'ai vu des gens qui disaient, mais j'avais déjà intégré dans ma bibliographie, ma veille automatique, cette enquête de terrain sur Autolib. Donc, il se pourrait que peut-être on trouve dans des articles plus tard.
Bon, en tout cas, bravo à vous, parce qu'on s'est beaucoup amusé en lisant ça, et on invite les auditeurs à le faire. C'est en lien, ce texte, donc, sur les Autolib à la sauce sociologique, signé Manuel Quinon et Arnaud Saint-Martin. Merci beaucoup d'être passé à la Une de la Science aujourd'hui. Et puis en bref, dans le reste de l'actualité, les cratères martiens ont peut-être été creusés par le vent et pas seulement par l'eau. Des scientifiques américains se sont intéressés au phénomène d'érosion sur Terre dans les Andes et ils montrent que les vents peuvent creuser des canyons jusqu'à 10 fois plus vite que l'eau. Un résultat qui va peut-être amener les spécialistes à redéfinir la quantité d'eau qui a pu couler sur Mars dans le passé. Peut-être un nouvel antibiotique grâce au sang de l'alligator. Des chercheurs de Virginie ont découvert ce qui permettait à ces gros reptiles de se vautrer toute la journée dans des mares infestées de bactéries sans jamais être infectées. Il s'agit de l'action conjuguée d'une enzyme et de peptides antibactériens capables de tuer un nombre important de bactéries résistantes. Une nouvelle piste d'antibiotiques que les chercheurs comptent bientôt tester sur les mammifères. Et puis pour finir, attention pendant votre safari, car les lions savent aussi ouvrir les portes de voiture. Une vidéo amateur fait le tour du web en ce moment. On y voit en Afrique du Sud une jeune lionne actionner la poignée à coups de dents et ouvrir la porte. Plus de peur que de mal pour les passagers évidemment, qui sont parvenus in extremis à la refermer au nez du félin. Une vidéo que vous pouvez voir sur la page Facebook de La Tête au Carré. Vous avez 8 intelligences différentes, vous ne le saviez pas, et bien on en parle dans un instant. My Sweet Lord avec George Harrison sur France Inter.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
8 intelligences, mais quelle est la vôtre? On s'intéresse aux intelligences multiples dans la tête au carré. C'est en partenariat avec nos confrères du magazine Cerveau et Psycho qui consacre un grand dossier à ce sujet dans son dernier numéro. Pour en parler, donc, Claudine Chevalier, vous êtes professeure honoraire de mathématiques à la faculté d'éducation de l'université Paris-Est Créteil et vous avez participé au guide pour enseigner autrement aux éditions RETS. Olivier Houdet, vous êtes professeur de psychologie à Paris Descartes et vous dirigez le laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant. C'est au CNRS et vous êtes l'auteur du livre « Apprendre à résister » aux éditions du Pommier. Et puis Sébastien Boller, bien sûr, rédacteur en chef du magazine Cerveau et Psycho. Alors je le disais tout à l'heure, dans les années 80, le psychologue américain Howard Gardner a publié le premier ouvrage où il explique sa découverte de 8 formes d'intelligence. Donc c'est une façon pour lui quand même un petit peu de bousculer la référence au quotient intellectuel et puis de montrer que nous serions en réalité en possession de plusieurs intelligences. Aujourd'hui, Sébastien Boller, cette théorie est confirmée aussi, et c'est ce qui fait l'objet de ce dossier, aux études récentes en neurosciences.
Ouais, c'est ça, voilà. Je pense la grande nouveauté qui fait passer cette théorie du stade de théorie psychologique qui était contestée à un statut vraiment presque de théorie cognitivo-cérébrale, c'est le fait qu'il y ait aujourd'hui suffisamment de données sur le fonctionnement du cerveau pour confirmer le fait que voilà, il y a comme des modules dans le cerveau qui orientent notre perception du monde, notre traitement des informations selon tel ou tel canal, et qu'il semblerait qu'on puisse parler à chaque fois d'intelligence. Alors vraiment, toute la question ensuite, c'est celle, la définition de l'intelligence.
Absolument, on pourra y revenir, bien sûr. On vous posera la question. Donc Olivier Houdet, grâce à l'IRM, entre autres aujourd'hui, on peut en fait valider ce que disait Gardner.
Oui, en particulier donc l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, où l'on peut visualiser sur ordinateur. Je dirais plutôt des réseaux que des modules. Il y a des modules spécialisés, mais aussi des parties très différentes, parfois éloignées du cerveau, qui travaillent ensemble pour combiner une intelligence logico-mathématique, visio-spatiale, quelquefois émotionnelle. Et la question de savoir combien est vraiment un objet de science, c'est-à-dire que l'on peut aujourd'hui, avec une méthode, visualiser telle ou telle forme d'intelligence.
C'est une sorte de cartographie de notre cerveau, voilà, en fait.
Une mosaïque, une cartographie.
Ouais. On localise des régions.
Voilà, une cartographie des intelligences dans le cerveau de chacun.
Ouais. Donc le QI, ça ne suffit plus. Et le QI, pourtant, ça intéressait beaucoup Pierre Desproges dans les années 80.
J'ai un quotient intellectuel de 130. Ouais, tu peux siffler. C'est énorme. Cela signifie tout simplement que je suis doué d'une intelligence exceptionnelle. C'est important, l'intelligence. L'intelligence, c'est le seul outil qui permet à l'homme de mesurer l'étendue de son malheur. 130, rendez-vous compte, c'est considérable. T'es à vous, là, qui devait plafonner à 100, 110. T'as essayé de me résoudre ce problème, là. C'est une question du test. Concentrez-vous, c'est pas très difficile. Là, je vous donne, vous connaissez le principe, je vous donne 4 mots. Parmi ces 4 mots, cherchez l'intrus. OK? Alors, métastase, chimiothérapie, Schwarzenberg, avenir. C'est dur, hein?
Et c'est Desproges, évidemment. Olivier Houdet, le QI s'est dépassé aujourd'hui justement à la lumière de ces théories de Gardner.
L'idée du QI d'Alfred Binet à la fin du 19e siècle, au début du 20e, était une bonne idée. C'était le but de mesurer l'intelligence différenciée chez les enfants pour identifier les difficultés scolaires. Mm-hmm. Le problème est qu'au cours du 20e siècle, le QI était stigmatisé, se résumait à un chiffre et on imaginait qu'on avait ou non tel chiffrage d'intelligence. Cela, aujourd'hui, on sait que c'est totalement faux. Il y a dans le cerveau plusieurs formes d'intelligence qui peuvent coexister et s'éveiller l'une l'autre.
Oui. Donc, Sébastien, on a dépassé l'étroitesse un peu proposée par le QI. Hein. On est dans un domaine beaucoup plus large, avec un champ vaste.
On est passé d'une approche quantitative à une approche qualitative. C'est-à-dire qu'il faut plus demander quel est le niveau d'intelligence d'une personne, mais plutôt quel est le type d'intelligence d'une personne. C'est ce qui change tout. On n'est plus sur un nombre, voilà, comme le 130 de Desproges, le 110. Oui. Ça ne veut pas dire grand-chose. Enfin, si, ça veut dire quelque chose. D'ailleurs, surtout sur, je crois, 2 grandes formes d'intelligence. Hein, c'est la logico-mathématique et la verbale, linguistique. Mais d'autres formes de réflexion, de capacité cognitive sont très peu prises en compte dans le QI. Oui. Or, on s'aperçoit quand même, ce sont des intelligences à part entière qui requièrent une maîtrise, un vocabulaire, une réflexion, une sensibilité, une vraie compétence, parfois sociale, parfois émotionnelle, Donc c'est ça qui change. Vraiment, ouais. On n'est plus sur un nombre, on est sur une palette.
Claudine Chevalier. Et puis pour les enfants aussi, pour l'éducation, ça change tout.
Ça change tout parce que quand on aborde une question, je vais prendre l'exemple des mathématiques parce que c'est celle-là oui. souvent qui est la plus facile pour moi, mais qui est souvent montée en épingle comme quelque chose de très difficile ou très important. Si je fais de la géométrie. Je ne vais pas du tout utiliser les mêmes formes d'intelligence que si je fais du calcul. Et tout le monde le comprend. On ne va pas demander à un enfant de commencer par raconter un triangle. On va commencer par lui faire voir le triangle. Donc toute la partie visuo-spatiale est excessivement importante et pertinente dans ce cas-là. Et pas du tout la partie verbale linguistique. Or, on décrit en général, on fait apprendre aux élèves, même en collège, on leur fait apprendre des litanies de mots et de... je ne parle pas du raisonnement, hein, je parle de la description des objets. On leur fait décrire les objets avant de les voir où on ne sait même pas ce qu'ils perçoivent dans la tête.
Oui.
Une des jolies blagues que l'on fait souvent, c'est de dessiner quelque chose au tableau et puis de demander ce que c'est. Eh bien, là, je ne peux pas vous le dessiner, mais si je vous le dessinais, je vous dessine un truc comme ça. Hein, et là, les auditeurs ne peuvent pas du tout voir, mais si vous regardez, je peux dire que c'est soit un quadrilatère, soit une pyramide. Et c'est plat ou c'est dans l'espace. Et ça... Vous ne pouvez pas le voir sur le dessin. Vous ne pouvez que l'interpréter dans la tête. Or, l'enseignant qui dessine ça, lui, il voit quelque chose. Mmh. Et l'enfant, il peut complètement voir autre chose.
Thierry nous dit sur franceinter.fr, il serait peut-être souhaitable quand même d'indiquer que peu de données empiriques valident la proposition de Garner sur les soi-disant 8 formes d'intelligence. Il n'y a pas assez de données scientifiques. Alors, Sébastien, parce que c'est quand même très critiqué. C'est-à-dire que là, on s'installe dans un domaine qui est encore controversé dans le domaine scientifique. Hein.
Si, il y a énormément de données scientifiques. Je pense que ce que nous ont appris les neurosciences depuis maintenant quand même plus de 10 ans, on le sait maintenant depuis 15-20 ans, c'est qu'on n'a pas tous le même cerveau. Quand un enfant apprend à compter, on sait aujourd'hui, grâce à des travaux qui sont tout ce qu'il y a de plus rigoureux, notamment ceux de Stanislas Dehaene au Collège de France, que certaines parties de notre cerveau, certains réseaux, se développent, qui prennent en charge les notions de nombre. On sait où ça se passe, on sait comment ça se passe. Il y a une plasticité qui intervient. Le cerveau se modèle littéralement dans ces endroits-là. Quand un enfant, en revanche, apprend à parler ou à lire, ce sont d'autres parties du cerveau qui aussi se configurent. Olivier Houdet l'a très bien étudié, des zones de reconnaissance visuelle des mots, notamment, qui sont l'objet d'une plasticité cérébrale. Quand on apprend de la musique, on voit que ce sont d'autres parties du cerveau qui, entre guillemets, se musclent avec ces phénomènes de connexion qui grossissent, qui se renforcent. Et simplement, en fonction de l'environnement qu'on a connu petit, ou des gènes qu'on porte, ou des deux, eh bien, ce ne sont pas forcément exactement les mêmes parties de notre cerveau qui sont le siège de cette plasticité cérébrale. Donc la plasticité cérébrale va s'accentuer dans tel ou tel cerveau, chez telle ou telle personne, à différents moments. On n'a pas tous le même cerveau et ça ne débouche pas toujours sur le même mode de traitement de l'information. C'est extrêmement bien cadré dans les concepts des neurosciences aujourd'hui. Donc je trouve que ce procès est un petit peu injuste parce que tout l'article que nous a fait Olivier Houdet, c'est justement pour nous montrer qu'aujourd'hui, on a ce socle biologique qui renforce cette idée-là.
Alors, qu'est-ce que vous répondez, Olivier Houdet, à Christophe, par exemple, sur Twitter, qui nous dit ceci, j'ai un peu de mal avec l'idée d'une segmentation de l'intelligence.
En fait, il pose une question que tous les psychologues se sont posés pendant le XXe siècle, l'intelligence est-elle unique ou multiple? Alors, je pense qu'il ne faut pas faire de faux débats autour de est-ce qu'il y a ou non un certain nombre d'intelligences. Il faut relier les découvertes existant maintenant depuis 20 ans sur la spécialisation de différentes régions du cerveau, le cortex pariétal pour l'espace et le nombre, le cortex préfrontal pour le raisonnement et la capacité de résister à des pièges perceptifs, par exemple, le cortex temporal et frontal pour le langage, l'intelligence interpersonnelle, être capable de tenir compte du point de vue de l'autre, la tolérance, c'est à la jonction entre le temporal et le pariétal. Donc, c'est plutôt ça qu'il faut faire, être très pragmatique, voir quelles sont les données découvertes par l'imagerie cérébrale qui sont
d'ailleurs,
extrêmement
c'est ce qui a amené Garner sur la piste de ces intelligences multiples. C'est lorsqu'il a vu que des lésions voilà. entraînaient précisément des pertes de certaines capacités.
À cette époque, il y avait l'argument des lésions qui était déjà bon. Hein. Garner disait, telle partie du cerveau qui est lésée, eh bien, vous perdez la capacité de parole, ou vous perdez la capacité de représentation spatiale ou de dénombrement. Mmh. Il avait un autre argument, c'est que dans l'histoire, les génies ne s'expriment pas en général dans tous les domaines. Gandhi avait peut-être une exceptionnelle intelligence interpersonnelle. Einstein, visio-spatiale mmh. et logico-mathématique.
Darwin en avait une autre, comme vous l'expliquez
voilà, Chopin musical. Ouais. Donc ça, c'était les arguments des années 80. Aujourd'hui, on a des arguments tout à fait nouveaux. C'est que dans le cerveau de chacun, enfant ou adulte, on peut essayer de voir comment ces formes d'intelligence travaillent ensemble, c'est-à-dire mobilisent des régions différentes et surtout établissent des connexions à proche ou à longue distance à travers le cerveau. Et donc, ça se ramène à un problème d'observation scientifique. Ce n'est pas une spéculation philosophique sur le nombre d'intelligences.
Je croise des soleils aux ardeurs érotiques, avec des cris perdus sur des sourires de femmes, bercés par les étoiles d'une essence romantique. J'ai trop longtemps cherché mes visions dans les flammes. Je veux brûler pour toi, petite. Je veux brûler pour toi. La vitesse de la lune autour de nos orbites n'arrête pas les sanglots froids de l'humanité. Et l'œil désespéré dans son triangle en quitte semble soudain jaloux de nos fiévreux baisers. Je veux brûler pour toi, petit. Je veux brûler pour toi. Je veux brûler pour toi, petite. Mais gâche pas mon enfer avec ton paradis. Je veux brûler pour toi, petite. Mais lâche pas tes prières sur mes cris hypocrites. D'aucuns me disent rebelles et d'autres inifugés. Mais mes divagations n'emmerdent plus personne. Je caresse mon corbeau en chantant du ruflé et joue pour les voyous virés de la Sorbonne. Je veux brûler pour toi, petit. Je veux brûler pour toi. Je veux brûler pour toi, petite. Je veux brûler pour toi.
Stratégie de l'inespoir, Hubert Félix Stéphane à l'instant dans la tête au carré, les intelligences multiples. C'est donc le dossier de l'émission avec Olivier Houdet, professeur de psychologie, Claudine Chevalier, enseignante à la retraite, mathématicienne, et Sébastien Boller pour Cerveau et Psycho. Sébastien, d'ailleurs, on peut dire que grâce à ce nouveau numéro, on peut tester nos différentes formes d'intelligence.
Ouais,
il y a
voilà,
un petit quiz.
C'est Gervais Sirois qui
c'est amusant comme tout à faire, ça.
Formateur en éducation au Canada, qui est un grand... on va dire exégète de cette théorie des.
C'est pas Monsieur Tremblay, hein.
Non, c'est un vrai, c'est un vrai. Et il a repris les questionnaires scientifiques établis autour de cette théorie. Donc c'est pas des questionnaires sur un coin de table, hein. Ils sont vraiment validés scientifiquement, mais ils sont très faciles à passer et on peut ressortir avec ces intelligences dominantes.
Voilà, Lise nous dit sur Twitter, merci, j'ai toujours su que j'étais pas si bête que les tests de QI me laissaient supposer. Vivement que l'école prenne ça en compte, Claudine Chevalier. C'est un peu le but, hein, aussi.
C'est
qu'on arrive à intégrer à l'enseignement ces nouvelles perceptions de l'intelligence.
Absolument. Ouais. D'ailleurs, dans les expérimentations que l'on a faites dans les différentes écoles, on commence d'abord par découvrir ses propres intelligences. Les enseignants eux-mêmes, qui découvrent d'un seul coup que finalement, ils ne sont pas si verbolinguistiques et logico-maths que ça, alors qu'ils doivent toujours enseigner en privilégiant ces deux intelligences, mais que finalement, ils sont plutôt autre chose.
Ouais.
Et dans les conférences que l'on fait partout en France, en province, ailleurs, la plupart d'entre eux nous disent qu'ils ne sont pas prioritairement verbolinguistiques et logico-mathématiques.
Est-ce que l'idée aussi, c'est d'identifier l'intelligence qui prédomine chez un élève ?
Et parallèlement, c'est la même chose. Mmh. Et ça rassure beaucoup, beaucoup les élèves, parce que ça leur permet de se dire que finalement, ils ne sont pas idiots.
Jean-Paul nous dit ceci sur franceinter.fr, qu'il y ait de multiples dimensions à ce que nous appelons l'intelligence qui en douterait, mais de là à donner une autonomie d'entité à chacune de ces dimensions, comme fait Gardner, n'est-ce pas excessif ? Olivier Houdet, toujours pour ceux qui sont sceptiques.
Je pense qu'une façon de comprendre cela, c'est de considérer que l'intelligence, chez tout le monde, humains comme animaux d'ailleurs, même les plantes potentiellement, c'est une forme d'adaptation, une adaptation biologique.
Donc et ça, vous décrivez ce qu'est l'intelligence au fond. Hein,
voilà, c'est une adaptation biologique. Et on peut comprendre que chacun, selon les enjeux, selon son environnement, fera passer cette adaptation la plus belle, la plus subtile possible, l'un par la musique, l'autre par l'espace, l'autre par les mathématiques. Et ces formes d'adaptation multiples peuvent s'observer dans le cerveau, à la fois par le recrutement de réseaux neuronaux et aussi par le fait d'écarter, de résister à certains autres réseaux. Et cela se fait dans le cortex préfrontal, une intelligence en quelque sorte de sélection qui est indispensable. Oui. Dès l'instant où on reconnaît la multiplicité des formes de l'intelligence, il faut dès lors une intelligence, méta-intelligence si vous voulez, de sélection de l'une ou l'autre au bon moment, selon l'exigence de la situation.
Ouais, parce que vous dites qu'il ne faut pas se tromper d'intelligence. Les enfants, par exemple, qui parfois veulent utiliser leur intelligence visuelle et spatiale pour des tâches de dénombrement.
Absolument.
Ils font des grosses erreurs, donc il faut pouvoir sélectionner. Ouais.
C'est ce que l'on a étudié. Et s'il y a plusieurs intelligences et que l'une prédomine, c'est positif pour identifier finalement le terrain de départ pour faire progresser un enfant dans une autre forme d'intelligence, par exemple du spatial vers les mathématiques, comme vous l'évoquiez. Mais cela peut aussi le perturber, créer des erreurs. Et nous l'avons démontré, ce qui est illustré dans le magazine, à la suite de Piaget, avec 6 jetons plus ou moins écartés, le jeune enfant dira qu'il y en a plus là où c'est plus long. Donc c'est un exemple où son intelligence visio-spatiale le trompe, alors que s'il comptait, il y a exactement le même nombre de jetons. Donc le fait qu'on ait plusieurs intelligences, ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle.
Ouais.
C'est que ça crée des conflits, c'est la guerre dans notre cerveau.
C'est ça, c'est compliqué, parce que tous ces petits tiroirs, il faut les ouvrir au bon moment, en fait, pour bien s'en servir.
Et c'est sans doute cela que l'école doit éduquer, et nous, on étudie des apprentissages à l'école systématiques au choix de l'une ou l'autre forme d'intelligence et à cette capacité à résister quelquefois à l'intelligence qui domine, mais qui n'est pas la bonne adaptation. Et c'est là où on retrouve cette notion d'intelligence comme adaptation au cas par cas.
Sauf que Claudine Chevalier, comment on peut demander à un enseignant, franchement, d'identifier 8 intelligences différentes face aux élèves qu'il a devant lui, là ?
On a mis en œuvre toute une série d'expérimentations, évidemment pas avec les tests comme ils sont dans la revue, parce que c'est essentiellement verbal-linguistique, là, pour le coup. Mmh. Et chez les petits, chez les enfants, ils ne sont pas d'abord verbo-linguistiques. Mmh. Donc on a mis au point un certain nombre de jeux ou de contes pour pouvoir s'adresser aux uns aux autres, d'images. Et comme ils sont très kinesthésiques et visuels-spatiales, la plupart, en travaillant là-dessus, on voit très, très vite quel est le profil d'une série d'élèves. Et puis même si on ne sait pas, ben c'est pas grave. À partir du moment où on a ce cadre qui nous permet de dire, finalement, on a plein de formes d'intelligence, on peut aussi préparer une séquence d'apprentissage en travaillant d'une manière ou d'une autre, en privilégiant l'une ou l'autre des formes d'apprentissage, des intelligences. Et du coup, on peut aboutir à la forme que l'on voulait.
Oui. Et ça se mélange, c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi, hein, Sébastien, toutes ces intelligences. Hein.
Voilà, apparemment, c'est le premier sondage réalisé suggère qu'on aurait entre 3 et 4 intelligences dominantes, sur les 8. Et effectivement, si vous passez le test, vous verrez que vous en avez
c'est très clair,
peut-être 2, 3, 4, voilà, mais on n'en a pas 10 partout. Hein.
Non.
Et du coup, ça permet, effectivement, ça peut être des pistes pour s'orienter déjà quand on est un ado, quand on s'oriente vers les carrières professionnelles. Et puis, comme le disait Olivier, ça insiste sur la notion de libre choix. Il faut pouvoir jongler avec ses intelligences. Et ce qui est intéressant, ce qu'on lit dans l'article, c'est que la partie du cerveau qui nous permet de faire ça, eh ben, elle se développe jusqu'à 20-21 ans. Donc, la capacité de libre arbitre...
C'est le cortex préfrontal, et c'est cette région dont la maturation est la plus lente et qui reste toujours la plus fragile au cours de la vie. Et prenons l'exemple de l'intelligence interpersonnelle, c'est la capacité à inhiber en quelque sorte son propre point de vue pour considérer celui de l'autre. C'est au fondement de la tolérance, de l'acceptation de cultures différentes, de visions différentes du monde. Et l'actualité nous montre à chaque fois, particulièrement pour l'instant, que c'est une intelligence très subtile et très sollicitée et qui commence à faire partie des programmes scolaires. Mmh. Donc cette intelligence dite interpersonnel, c'est comprendre l'autre et au cas par cas considérer que s'adapter ainsi, c'est une intelligence, on va dire, sociale.
Claudine Chevalier.
Moi, je voudrais citer le cas des petits, parce que dans l'enseignement, on éduque les tout-petits. Et les tout-petits sont prioritairement kinesthésie corporelle et musico-rythmique. Et donc, si on commence
donc
à...
Donc
ça
fait partie de ces 8 intelligences.
Fait partie des 8 intelligences. Et dans toutes nos observations, quand on a regardé les classes entières, ils sont prioritairement à l'école maternelle, ils sont prioritairement ça. Donc, il faut en tenir compte et pouvoir faire développer les autres intelligences au fur et à mesure, en tenant compte de ça.
Voilà, intelligence naturaliste, on en parlait tout à l'heure, Olivier Houdet, intelligence musicale, corporelle, kinesthésique, donc logico-mathématique, naturaliste, interpersonnelle, verbal-linguistique, intrapersonnelle et visuel-spatial.
Oui. Vous comprenez qu'avec tout cela, il faut être capable de faire des choix. Oui. Donc ce fameux cortex préfrontal qui va choisir la bonne intelligence au bon moment, il faut l'éduquer. Mm-hmm. Et c'est là-dessus que doit porter la réflexion, que doivent porter les recherches. Il y a dans ce cortex des neurones et des axones courts pour certains, mais très longs pour d'autres. Donc il peut donner des ordres, on va dire, d'arrêt ou de marche sur l'ensemble du cerveau. Et cette intelligence-là est assez subtile, qu'au final, il faille sélectionner entre 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça dépendra finalement de la cartographie de l'intelligence de chacun dans son cerveau. En revanche, on doit tous sélectionner et apprendre à utiliser l'une ou l'autre au bon moment. Et si on peut être d'accord, c'est sur cette forme d'intelligence.
Mais alors, si je viens chez vous passer une IRM, par exemple, vous allez pouvoir me ressortir ma carte d'identité d'intelligence ou pas ?
L'IRM, alors que vous êtes en train de résoudre des tâches différentes. Ouais. On observera que
chacun... Vous ferez une petite carte
si vous le voulez,
régional.
Vous venez à la Sorbonne, au 46 rue Saint-Jacques, là où vous venez à inventer le test de QI où nous faisons aujourd'hui de l'imagerie cérébrale.
On va prendre rendez-vous alors. Viron nous dit ceci, ces intelligences de base sont-elles en phase avec un développement précoce et liées les unes aux autres, par exemple l'apprentissage de la musique, est-ce que ça aide ou est-ce que ça facilite plus facilement l'apprentissage des langues? Est-ce qu'il y a synergie entre tout ça?
C'est une question vraiment intéressante. Je ne suis pas sûr que ça a été vraiment étudié scientifiquement. On parle beaucoup de l'intelligence intrapersonnelle. L'intelligence intrapersonnelle, c'est la capacité d'identifier ses ressentis, ses émotions, de mettre des mots dessus, de les exprimer. Donc, d'une part, c'est un prédicteur de la réussite sociale et professionnelle, au moins autant que le quotient intellectuel. Et puis, depuis les travaux d'Antonio Damasio dans les années 90, on sait que cette capacité à identifier nos émotions, c'est une aide aussi pour la prise de décision. Donc, ce n'est pas parce que c'est émotionnel que c'est complètement déconnecté de la raison. Et les deux sont vraiment très, très liés, d'après les travaux d'Antonio Damasio. On sait vraiment aujourd'hui qu'il y a vraiment des contacts très, très profonds.
Il y a sans doute des liens étroits entre langue et musique, tout comme il y a des liens étroits entre musique et mathématiques. Oui. Prenez l'exemple de Bach, par exemple. Ce que je voudrais dire, c'est que notre société dans son ensemble, depuis l'école maternelle, jusque finalement, par exemple, le monde académique, où il y a d'un côté les littéraires et de l'autre côté les logiques mathématiques.
On cloisonne énormément.
On cloisonne. Il faut bien sûr une certaine spécialisation dans l'éducation et dans la recherche, mais on cloisonne trop. Et si déjà cette idée d'intelligence multiple décloisonne, l'éveil de l'intelligence et après l'exercice de l'intelligence dans la société et dans la recherche scientifique, ce serait un beau progrès.
Allez, on se retrouve dans un instant. Il y a beaucoup de messages pour vous. Je vous les transmets, franceinter.fr. Et le mot-clé, l'attaque, juste après Blur et Damon Albarn. We'll be right back.
in myself. Greedy, go get a gun. Luxury of stuff. I've seen the end of dancing with myself. I get into my bed. I do it to myself. Get up about, 'cause we do it all the time. The shepherd this undone, she done it all again. I get ready to go, the green go get a car. We go into the local. Western man, top bottom left undone. Imperious design, the peddlers of luxury. A greedy go-getter in the sky bar. She on her own. She get ready to go. She does it with herself. She does it with herself. She does it on her own. She does it on her own.
Go out, Blur, Damon Albarn.
La tête au carré, jusqu'à 15h, sur France Inter.
Cerveau et Psycho, notre partenaire, 8 intelligences, mais quelle est la vôtre? Les neurosciences l'ont découvert et vous allez pouvoir même les tester dans le magazine papier, hein, Sébastien, pas sur Internet.
Les questionnaires sont en ligne également.
Ah, c'est bien.
Oui. Voilà, on peut les passer.
Cerveauxpsycho.fr, tout simplement,
voilà.
Pour les retrouver. Ouais. Allez, beaucoup de questions des auditeurs. Cécile nous dit ceci, j'enseigne en collège à des élèves dyslexiques et l'utilisation des intelligences multiples leur est souvent très utile. Claudine Chevalier.
Absolument. Ouais. Elle donne la question et la réponse en même temps, mais effectivement, il faut passer par un autre chemin et passer par un circuit neuronal qui leur permet ensuite de combattre ce léger handicap.
Geneviève nous dit ceci, pour parler d'autres handicaps, que peut-on dire par rapport à certaines pathologies comme l'autisme? Certaines de ces 8 intelligences sont-elles défaillantes, Olivier Houdet?
L'autisme, c'est notamment un trouble de l'intelligence interpersonnelle, très caractérisé, tout le monde est d'accord avec cela. Et c'est une région notamment dite de théorie de l'esprit. Imaginez les émotions, les sentiments, les connaissances des autres et qui se trouvent à la jonction entre notre cortex temporal et pariétal.
Sébastien Boller, ça a été évalué clairement, cette théorie de l'intelligence multiple, pour voir si dans le cadre de l'enseignement, justement, on peut l'appliquer sans crainte.
Il y a un projet aux États-Unis qui s'appelle le Harvard Project Zero, qui a consisté à évaluer 41 écoles Ouais. Voilà. Et 10 d'entre elles ont fait l'objet d'une évaluation vraiment poussée et les résultats sont très 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 nets. 80% des établissements disent avoir constaté une amélioration de la participation des parents, 80% aussi une amélioration du comportement des étudiants, de leurs résultats. Et puis aussi pour les étudiants qui présentent, comme le disait Claudine Chevalier, des difficultés d'apprentissage. Donc des résultats très positifs aux États-Unis. Malheureusement, je ne crois pas qu'il y ait encore d'évaluation nationale en France.
Ouais, sauf qu'il y a des applications grandeur nature à Auldre, par exemple, en Seine-et-Marne. Hein, il y a une école qui applique.
Il y a une école aux Auldres, entre autres. Il y a un collège aussi à Saint-Farge au Poutillier.
Voilà. Quel résultat, alors, concrètement?
Tout change dans les classes. Les atmosphères de classe changent parce que les enfants sont contents de pouvoir travailler.
Ouais. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comment on modifie la façon d'enseigner quand on est conscient justement de ces intelligences multiples?
Il suffit de proposer des ateliers, des activités qui puissent permettre d'entrer dans la connaissance par des activités soit visuelles spatiales, à dominante visuelle spatiale, ou logico-maths, ou musicales rythmiques. Et par ce biais-là, les enfants prennent confiance et commencent à arriver à travailler sur le domaine déterminé.
Mmh. Olivier Houdet.
Oui, ce qui change, c'est la conception même que les élèves et les professeurs ont de l'intelligence. C'est donc accepter les différences, les styles cognitifs variés et les ateliers en classe, comme l'a fait jadis Freinet ou comme les pédagogies Montessori, permettent justement d'imaginer des chemins cérébraux, mais aussi des chemins dans la classe par les ateliers pédagogiques différents pour atteindre un même but. C'est ce qu'on appelle la vicariance pédagogique. Et déjà accepter cela change en effet, comme vous le témoignez, l'atmosphère de la classe et ne stigmatise pas les enfants selon une seule dimension de l'intelligence. Et c'est cela qui est capital.
Et on arrive à le faire entrer dans l'éducation nationale aujourd'hui ?
Il faudrait demander à Claudine Chevalier, mais surtout, je crois qu'il faut souligner que ça ne demande pas, d'enseignants supplémentaires. Hein. Les personnels suffisent.
Non, les personnels
suffisent. C'est une question de matériel. Oui. Et il y a une chose qui est très touchante dans ce que vous écrivez aussi, c'est que les parents, apparemment, découvrent souvent aussi leur enfant à travers les rencontres et les débriefings sur les ateliers. Et ça peut apporter vraiment à beaucoup de monde.
Juste un tout petit témoignage d'une des enseignantes, Adeline Villon, de Saint-Ferge-au-Pont-Thierry. J'ai observé que les intelligences multiples ont aidé chacun à trouver sa place dans la classe, ce qui a permis d'établir une atmosphère de travail, de respect et de bonne humeur quotidienne. Voilà, ainsi, le profil de la classe constaté en début d'année n'est plus le même. Tous les élèves sont désormais dans une dynamique de participation et de progression.
Olivier Houdet.
Le témoignage des parents que vous donnez est intéressant parce que nous faisons vraiment des expériences scientifiques avec les enfants observés à l'école, mais aussi au laboratoire lorsqu'ils viennent passer une IRM. Donc on observe dans leur cerveau ce qui se passe dès les grandes sections de maternelle. Et très souvent, les parents nous disent après, on n'imaginait pas notre enfant déjà capable de faire cela, se prêter une expérience scientifique. Et l'enfant voit lui-même les régions du cerveau, de son propre cerveau, qui se sont activées lorsqu'il résolvait une tâche avec telle ou telle forme d'intelligence. Et donc, cette conscience réflexive est aujourd'hui quelque chose d'essentiel. On peut faire bouger son cerveau et le faire être intelligent de façon différente.
Quelle promesse! Thierry nous dit ceci, mais le QI reste toujours le meilleur prédicteur de la réussite scolaire à partir des tests à disposition aujourd'hui. Vous n'êtes pas d'accord avec lui?
Non, c'est un prédicteur, mais les recherches, notamment réalisées par Adele Diamond au Canada et publiées dans la revue Science, montrent que le meilleur prédicteur des performances scolaires et académiques, donc à l'école et tout au long de la vie, est cette intelligence de sélection que j'évoquais tout à l'heure, qu'on appelle les fonctions exécutives du cortex préfrontal, qui est le chef d'orchestre et qui nous fait choisir au bon moment quelle est la bonne forme d'adaptation, c'est-à-dire d'intelligence à la situation. C'est donc cette fonction de sélection interne qui est le meilleur prédicteur de notre adaptation à l'école et dans la société.
Nicolas demande comment sont choisis ces domaines d'intelligence, pourquoi la musique et non pas la cuisine, par exemple. Qui veut répondre? Allez, Claudine Chevalier.
Oui, simplement, on n'active pas les tout à fait les mêmes choses. C'est pas du même domaine. La musique active des réseaux cérébraux complètement particuliers.
Mais la cuisine aussi, j'imagine.
Il n'y a aucune objection. Hein. Reste à faire des travaux qui n'ont pas été faits sur le génie ou l'intelligence dans l'art culinaire. Après, on verra qu'il y a certainement une forme visuelle, qu'il y a
petite
une forme olfactive, qu'il y a un côté corporel kinesthésique. On pourrait parler des chirurgiens aussi qui ont une intelligence à travers le geste.
Ouais.
Donc, il faut renverser la question. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment le cerveau travaille. On l'observe scientifiquement Et selon les combinaisons de réseaux neuronaux dans des situations particulières, on va considérer qu'il y a là ou non une forme d'intelligence qui se retrouve chez des enfants différents dans des situations différentes.
Michel nous dit « Je suis convaincu des multiples formes d'intelligence. Socialement, seule l'intelligence universitaire ou du savoir tel qu'il est enseigné est reconnu comme seule forme d'intelligence. Mais peut-on parler d'intelligence lorsqu'un docteur d'université se retrouve totalement incompétent lorsqu'il faut changer une roue de sa voiture, par exemple, même avec le manuel qui va avec ?»
Très certainement, c'est une intelligence très pragmatique et ça illustre le propos. On s'en est tous rendu compte. On s'en rend compte chaque jour que l'on est plus ou moins intelligent. Ce qui compte, c'est la marge de progrès dès l'instant où on est conscient de cela.
François demande, est-ce qu'on note des volumes cérébraux différents pour ces intelligences multiples ? Alors là, c'est vraiment du point de vue de l'anatomie.
Ouais. Hein. Oui, c'est une question technique, scientifique. Mmh. Nous, ce que l'on étudie grâce à l'imagerie cérébrale, ce sont des multiples critères de l'intelligence. Il y a la volumétrie, des apprentissages intenses peuvent modifier la quantité de matière grise. Il y a la connectique, les connexions entre des régions différentes. Il y a en effet... telle personne utilise à la fois le visio-spatial et le plus abstrait, mathématique ou logique, et les connexions qui s'établissent, et l'aspect vraiment fonctionnel, ce que mesure l'IRMF, c'est-à-dire quel réseau s'active à tel moment, dans tel problème intellectuel à résoudre. Donc il y a aujourd'hui, il faut le dire aux auditeurs, des mesures extrêmement précises, et c'est multifactoriel dans le cerveau.
Aude nous dit, en tant qu'enseignant, j'ai trouvé ces méthodes très intéressantes. Ça permet de multiplier les entrées dans les apprentissages afin de permettre à tous les enfants d'atteindre le même objectif. J'ai pu tester l'entrée musicale pour comprendre la soustraction et j'ai vu certains enfants en difficulté réussir du premier coup.
C'est ça la vicariance neurocognitive, utiliser des chemins différents pour, avec son cerveau, obtenir des mêmes objectifs pédagogiques.
Chevalier, les maths pour, ou la musique pour les
la
maths.
La musique pour les maths, d'ailleurs tous les profs de maths sont musiciens, mais
Donc ça, on voit bien le mélange aussi, des compétences.
Oui, il y a un mélange de compétences extraordinaires. Dans nos ouvrages, on propose justement un certain nombre d'activités et d'entrées dans les apprentissages pour donner des exemples. Mais après, chaque enseignant, il suffit de se mettre à plusieurs et on trouve des idées.
Sébastien ?
Il y a d'ailleurs des classes dans des programmes passerelles, dans certaines académies... un programme qui s'appelle Neuro 86 où on rassemble les élèves en difficulté pour faire des petits groupes de musique. Et un des grands problèmes souvent des élèves en difficulté, c'est le problème de la motivation, de l'attention, de croire en eux, d'avoir du plaisir dans l'activité. Et en quelques séances, le plaisir est là, les enfants sont hyper concentrés, ils sont disponibles ensuite et confiants en eux pour aborder des matières plus difficiles.
La confiance en eux, c'est très important.
Christelle nous dit, dans le test proposé par Cerveau Psycho, il est indiqué que 2 ou 3 intelligences sortent du lot en général. Et si les 8 types sortent une note entre 7 et 10. On fait quoi pour s'y retrouver, demande Christelle. Elle a de la chance d'abord.
D'abord, elle a beaucoup de chance.
On l'envie.
Et puis Olivier Audier répondrait qu'elle n'a qu'à faire fonctionner son cortex préfrontal.
Elle sélectionne bien au bon moment.
Voilà.
Et c'est ça la résistance cognitive, c'est elle résiste à l'intelligence dominante.
L'embarras du choix.
Allez, merci beaucoup à tous les 3. Apprendre à résister. Olivier Audier, c'est aux éditions Le Pommier. Et puis donc le dernier numéro de Cerveau et Psycho sur les 8 intelligences. Quelle est la vôtre, Fabrice Drouel ?
Oh, écoutez, quelle question, cher Mathieu.
Pardon d'être si indiscret.
Non, moi je fais travailler la mémoire de nos auditeurs.
Dans un instant, affaires sensibles.
Voilà,
c'est quoi le thème aujourd'hui ?
On va les transporter en 1996 pour l'expulsion des sans-papiers de l'église Saint-Bernard à Paris. Vous vous souvenez probablement. Et c'est Martine Doucouré qui viendra nous en parler. Elle est membre du bureau exécutif pour les questions d'immigration et sans-papiers au sein du MRAP.
Eh bien, filez au studio 521, Fabrice, à tout à l'heure.